les podcasts de Radio Vatican.
La prise en charge de la déradicalisation en France est un fiasco. C'est le constat dressé dans un rapport d'étape sénatorial rendu public ce mercredi 22 février. Les sénatrices Esther Benbassa et Catherine Troendlé, qui depuis près d'un an ont étudié les dispositifs mis en place par le gouvernement français pour lutter contre la radicalisation, fustigent des politiques conduites dans la précipitation et dont les résultats n'ont jamais été évalués. Le gouvernement s'est lancé dans des expérimentations très coûteuses, mal préparées et confie à des organisations sans savoir-faire, affirme-t-elle, tout en précisant que n'importe quel gouvernement aurait fait les mêmes erreurs, pressé d'agir après les attentats. David Thompson, journaliste et l'auteur de l'ouvrage « Les revenants » aux éditions du Seuil, composé de témoignages de jeunes Français partis servir l'État islamique de retour en France. Ce rapport d'étape reflète, selon lui, la réalité.
Ce texte correspond exactement au constat que j'ai fait également, qui est le reflet, à mon sens, de la réalité, qui est de dire que la déradicalisation d'État ne fonctionne pas et qu'il n'existe pas à ce jour, contrairement à ce que certains acteurs ont pu dire à une époque, dans le champ institutionnel français, il n'existe pas de méthode de déradicalisation d'État. Je ne connais personne qui soit sorti de cette idéologie par le contact d'un programme de déradicalisation d'État français. En revanche, j'en connais plusieurs qui sont passés par ces programmes dits de déradicalisation en France et qui ensuite sont partis en Syrie.
Il y a nécessité aujourd'hui de changer de concept. Que doit faire l'État face donc à ce défi?
Personnellement, j'en viens à me poser la question de savoir si c'est vraiment le rôle de l'État de tenter de déradicaliser, entre guillemets, ces gens. J'en suis pas certain, j'en viens à me poser la question. Pour l'État, face à ce phénomène, il y a une obligation de moyens, il n'y a pas une obligation de résultats. Donc l'État est obligé de mettre en place des programmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des programmes qui ont été confiés, comme le montre le rapport, à des associations qui n'avaient pas de légitimité ou d'expérience pour travailler sur ce sujet, parce que il y a eu une prise de conscience tardive du phénomène en 2014, et à ce moment-là, il y a eu une sorte de sidération au niveau gouvernemental. Qu'est-ce qu'on fait? Et il fallait faire quelque chose. Et en fait, il fallait simplement développer une communication d'action de la part notamment du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, il y a une prise de conscience que d'abord, il y a eu un gâteau, hein, ni plus ni moins, que cette pression est dans le rapport.
Un business de la déradicalisation.
Un business de la déradicalisation, absolument, qui a attiré beaucoup d'acteurs plus ou moins douteux et qui aujourd'hui sont en train d'être mis sur la touche au niveau institutionnel. Donc les choses vont quand même dans le bon sens maintenant.
Il y a un travail de réinsertion, d'accompagnement individualisé à faire, selon vous?
La difficulté, et j'ai envie de dire le drame, c'est celui des repentis sincères, puisque l'individualisation, le cas par cas, il est parfois impossible, parce que il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans une logique de dissimulation de leurs intentions. C'est ce qui s'est passé notamment avec le fameux Adel Kermiche, qui cet été a été libéré de prison parvenant à duper des magistrats qui l'ont libéré, alors que sa radicalité était parfaitement connue des autres détenus en prison, et qui a ensuite assassiné le père Hamel dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le drame pour les repentis, c'est que c'est impossible de s'assurer du repenti sincère de quelqu'un. Et du coup, eux vont aussi pâtir de l'après-Kermiche. Mais aujourd'hui, pour, je pense, la justice, la tendance, elle est plus vers une plus grande sévérité en raison de ce précédent Kermiche que vers une individualisation et la réinsertion. Elle est, pour beaucoup de gens qui reviennent de Syrie en tout cas, elle paraît très difficile aujourd'hui.
Y a-t-il dans certains pays des initiatives qui ont connu un certain succès?
Je ne crois pas. Je connais aucun pays aujourd'hui qui puisse dire que, en tout cas de bonne foi, que le programme de désengagement violent a été un succès. Les pionniers en la matière ont été les Britanniques, il y a 10 ou 15 ans, en s'appuyant sur la communauté pakistanaise, avec des repentis dans les quartiers populaires de Londres. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que peu ou prou, les ampleurs de djihadistes qui sont partis en Syrie sont à peu près équivalentes en Grande-Bretagne et en Angleterre. Vous avez le programme saoudien qui a toujours communiqué de façon assez triomphaliste sur ses résultats, mais en même temps, si on regarde les acteurs djihadistes saoudiens qui sont en Syrie, alors l'Arabie saoudite est l'un des deux pays les plus touchés au monde avec la Tunisie, beaucoup de figures du djihadisme saoudien qui sont au sein de l'État islamique sont passées par les programmes de déradicalisation saoudien également. Donc, à ma connaissance, il n'y a aucun programme dit de déradicalisation, de désembrigadement, quelle que soit sa méthode, qui ait fait ses preuves dans le monde. Mais encore une fois, je ne crois pas que ce soit possible de la part d'une institution de sortir ces gens de cette idéologie-là. Je pense que certains peuvent en sortir. Je ne dis pas que la déradicalisation n'existe pas, je dis que la déradicalisation d'État, pour l'instant, n'existe pas. Des gens sortent de cette idéologie, mais ces gens ont quitté cette pensée ultra-violente par une prise de conscience personnelle. En raison de leur expérience, c'est le fruit d'un parcours personnel, pas du tout d'un programme public.
Cette prise de conscience personnelle, elle est accompagnée par la famille, par des représentants religieux ?
Non, la famille, dans le discours gouvernemental, public sur la question, a souvent été présentée comme une partie de la solution. La solution viendrait de la famille. Bien souvent, c'est l'inverse que j'ai constaté. Souvent, il y a des foyers qui sont dysfonctionnels, parfois à la marge. La famille, pour moi, elle est plutôt dans une minorité de cas la solution. C'est plutôt une partie du problème. Quant au discours des religieux qui pourraient éventuellement développer un contre-discours, pour l'instant, ça ne fonctionne dans aucun cas parce que ces contre-discours sont diffusés par des gens qui sont considérés comme des gens qui ont vendu leur religion, qui pactisent avec l'État contre lequel il faudrait au contraire se battre. Donc, si vous voulez, c'est un discours qui se heurte totalement à leur logique anti-système, etc. Donc, dans ces deux cas, je ne crois pas que ça puisse être la solution.
L'exécutif français a-t-il pris la mesure du phénomène ? A-t-il tiré les enseignements de ces échecs ?
Évidemment oui, hein, notamment après 240 morts au cours de l'année 2015. La prise de conscience est faite, mais elle a été tardive. C'est une prise de conscience qui s'est faite sur 2 voire 3 ans, qui a commencé début 2014, printemps 2014 à peu près, au moment où il y avait déjà un contingent de Français en Syrie et en Irak qui était très important. Mais en même temps, si vous voulez, c'est pas étonnant parce que c'est un phénomène qui s'est déroulé de façon extrêmement rapide. C'était un phénomène qui était inédit, pas ontologiquement, mais qui était inédit dans son ampleur. Et c'est aussi quelque part assez compréhensible qu'une machine d'État telle que celle de l'État français n'ait pas été d'une réactivité très forte. Il a fallu 2 à 3 ans pour que la prise de conscience soit nécessaire à tous les niveaux de la société française, au niveau médiatique, sécuritaire, géopolitique, politique, etc. Mais j'ai le sentiment que les choses vont plutôt dans le bon sens aujourd'hui.
Des propos recueillis par Hélène Destombes.